France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si vous vous engagiez pour la défense de la faune sauvage ? Aujourd'hui, dans les carnets de campagne, je donne la parole à une association qui a besoin de bénévoles près de Chambéry. Un centre de soins pour animaux blessés qui retrouvent ensuite leur environnement naturel. Ensuite, on parlera d'un vélo en bambou. Cyclic, marque de vélo made in France qui mise sur ce matériau naturel et surtout durable. Les carnets passent la semaine en Savoie et dans un quart d'heure, vous retrouvez bien sûr le jeu des 1000 euros spécial jeune à Barbera avec des enfants et des ados. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Nous voici à Montagnol, sur les hauteurs de Chambéry, pour nous intéresser à un centre de soins de la faune sauvage qui est le seul de Savoie à accueillir toutes les espèces. Son nom est une référence au tétralyre, un magnifique oiseau emblématique de la région. Ce centre de soins s'appelle Tétralibre. Marie-Sophie Saint-Illan, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la présidente bénévole de l'association Tétralibre. Bon, en réalité, vous n'avez jamais soigné de tétralyre, mais cet oiseau est un beau symbole.
Voilà, c'est vraiment un symbole emblématique des pays de Savoie, mais on n'en a encore jamais eu au centre de soins, et quelque part, tant mieux.
Pourquoi ?
Bah, parce que ça veut dire que tout va bien, qu'il n'a pas été blessé. Et alors, après, on ne peut peut-être pas tous les trouver, mais bon, moins on voit d'espèces, finalement, mieux c'est pour eux.
Hein. Votre centre de soins a ouvert ses portes il y a 5 ans, Marie-Sophie. Quels sont les animaux que vous accueillez en majorité ?
Alors, on accueille toute espèce sauvage, donc les espèces locales, de la Savoie et de la Haute-Savoie. On est sur les deux départements, et même des fois un petit peu les départements limitrophes. Donc, ça va du plus petit oiseau au plus gros mammifère, tout ce qui est cervidé, tout ce qui est passereau, écureuil, hérisson, chauve-souris. Voilà, on ne fait aucun tri d'espèces, en fait, sur le centre de soins. Toute vie mérite d'être sauvée, donc on accueille vraiment toutes sortes d'espèces.
Et comment sont acheminés vers vous les animaux ?
Alors, en général, ce sont les découvreurs qui nous appellent, les découvreurs d'animaux qui nous appellent. On leur demande, dans la mesure des possibilités, de nous amener l'animal jusqu'au centre de soins. Après, quand il y a des soucis, parce que on couvre quand même un territoire assez grand, on a des bénévoles rapatrieurs qui acceptent de prendre un animal sur un point A pour nous le ramener soit au centre de soins, soit le déposer chez un vétérinaire, s'il a besoin de passer par un vétérinaire avant d'arriver chez nous.
Et en hiver, il y a aussi des animaux dans votre hôpital ?
Oui, alors l'hiver, c'est moins dense. Par contre, on a des cas beaucoup plus lourds. Ce sont souvent des chocs véhicules, puisque il fait nuit plus tôt. On a aussi des animaux qui s'enfuient, puisque c'est la période de la chasse. Donc, on peut être aussi impacté par ça. Donc, il y a beaucoup moins d'entrées d'animaux, mais on travaille quand même. Printemps, été, c'est vraiment ce qu'on appelle la haute saison au centre de soins. Et là, oui, ça dépote. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'animaux.
Est-ce qu'il y a un animal chez vous en ce moment dont vous avez envie de nous parler ?
Alors, je crois qu'on va relâcher un cygne dans peu de temps. On a pas mal d'oiseaux d'eau, on a beaucoup, beaucoup d'espèces, on a des chouettes, on a pas mal de hérissons en hibernation aussi en ce moment, pas mal de chauves-souris aussi.
Et le but, c'est toujours de les remettre ensuite dans leur environnement naturel.
Tout à fait. Nous ne sommes pas un parc animalier. Tout animal qui passe par le centre de soins est relâché ensuite dans son environnement, bien évidemment, si on a réussi à le remettre sur pattes. Comment dire, on ne peut pas faire de miracle. Un animal qui ne peut pas reprendre sa vie sauvage parce qu'il a des blessures beaucoup trop importantes, en général, il va être soit euthanasié, soit placé en parc animalier ou en sanctuaire pour certaines espèces. Mais je veux dire, on ne fait pas d'acharnement thérapeutique.
Est-ce que toutes les espèces peuvent être remises en liberté dans leur zone naturelle ? Il y a un sujet en ce moment avec certaines espèces, Marie-Sophie.
Oui, alors, toutes les espèces qui sont accueillies en centre de soins peuvent être relâchées. Mais actuellement, on a un petit point d'interrogation par rapport aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, puisqu'on a reçu un courrier de nos services vétérinaires. Suite à un appel au ministère de la Transition écologique qui nous oppose un article relatif à la réglementation de la chasse et qui nous interdirait de relâcher les sangliers sauf en enclos de chasse. Donc, vous imaginez bien que c'est un petit peu hallucinant pour un centre de soins et de relâcher les renards que sur autorisation individuelle du préfet. Donc voilà, on est un petit peu en attente des décisions. On a fait un courrier d'opposition. On attend de savoir un peu ce qui va se passer. Il faut savoir que les centres de soins sont là pour réinsérer des animaux qui ont eu un incident de parcours dans la nature. Ils ne sont pas là pour lâcher des animaux dans le sens qu'on a fait un élevage et on augmente la population.
Oui, on vous demande de relâcher en zone de chasse un animal que vous venez de soigner.
Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on attend quand même des précisions puisque nous, on ne va pas soigner. Alors, on n'a pas des gros sangliers, en général, ce sont des marcassins. Mais on ne va pas soigner des marcassins pour qu'ils aillent servir de cible dans un enclos de chasse. C'est complètement hallucinant. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de législation vraiment pour les centres de soins. Donc on est un petit peu dans un petit flou artistique et dans une interprétation des textes, en fait.
L'association Tétra Libre a aussi une ligne téléphonique qui est très importante. À quoi sert-elle ?
Alors, elle sert à donner des conseils déjà dans un premier temps, puisque une personne qui trouve un animal sauvage ne sait pas forcément comment agir. Et elle nous sert aussi à faire du tri, alors pas du tri d'espèces, mais du tri par rapport à la situation. Donc, on pose un certain nombre de questions, on demande des photos, on fait un peu un focus sur la situation. Et il y a des espèces comme ça qu'on peut éviter de prendre en charge. Par exemple, un oisillon tombé du nid, si on arrive à le remettre en hauteur ou qu'on retrouve le nid, ça fait une prise en charge en moins. Et l'animal, il faut savoir qu'il est toujours mieux dans son environnement naturel à être élevé par ses parents que dans un centre de soins.
C'est peut-être important d'ailleurs de le rappeler, il vaut toujours mieux laisser tranquille la faune sauvage.
Oui, en fait, il faut réapprendre à vivre avec le sauvage. Donc, quand on dit ça, c'est... On reste à sa place et on laisse le sauvage à sa place. On a toujours ce qu'on appelle des ramassages abusifs. Donc ça part toujours d'un bon sentiment, d'un sentiment de bienveillance de la part des découvreurs. Mais on pense aux jeunes chouettulottes, aux jeunes merles, aux jeunes fans. Donc au printemps, les personnes les voient tout seuls. Ils se disent « Ah, ça y est, il est abandonné, il faut que je fasse quelque chose ». Mais non, c'est normal. Donc tout ça, ce sont des réflexes à réapprendre. Analyser la situation, prendre des conseils si on ne sait pas, et pas forcément toujours vouloir aller à la rencontre de l'animal, même si c'est tentant. Quand on voit un petit faon, c'est tentant, mais si on touche un faon alors qu'il n'est pas blessé, sa maman risque de l'abandonner. Donc, et c'est très 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 difficile d'élever des faons en centre de soins. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. La ligne de médiation sert aussi à ça. Et nous menons aussi des actions de sensibilisation, donc soit sur nos stands ou aussi auprès des scolaires. Et voilà, on essaye de porter la bonne parole pour réapprendre à vivre avec le sauvage.
Vous parliez tout à l'heure des bénévoles qui acheminent les animaux. Est-ce que vous avez besoin de renforts de bénévoles ?
On a toujours besoin de renforts, on a toujours besoin de bénévoles. On a environ 200 bénévoles soins, mais qui ne sont pas en permanence. C'est un listing de bénévoles soins. Il y a des périodes, effectivement, notamment en été, où c'est très compliqué, où on a un manque de bénévoles. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à nous appeler. Et puis, on a aussi tout ce qui est stand d'animation, justement, ou recherche de financement, où on a besoin de monde pour nous aider.
Tétra Libre, centre de soins de la faune sauvage en Pays de Savoie, c'est donc à Montagnole. Merci beaucoup Marie-Sophie.
Merci à vous Dorothée.
France Inter. Carnet de campagne.
Et nous parlons à présent de vélos made in France, mais vraiment made in France. Il est fréquent que les marques mettent en avant une fabrication locale alors que c'est l'assemblage uniquement qui est fait sur place. Le cadre du vélo notamment a été fabriqué en Asie fréquemment. Bonjour Félix Hébert.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Cyclic, marque de vélo basée à Entrelacs, en Savoie. Fabrication locale donc, avec des matériaux singuliers. Des vélos en bambou notamment. C'est pas nouveau mais c'est pas très répandu encore.
Oui, effectivement, on fabrique des cadres de vélo donc en utilisant des tubes de bambou et des éléments de liaison, donc la fibre de lin pour lier les différents bambous entre eux. Alors comme vous l'avez dit, on n'est pas les inventeurs du vélo en bambou, mais par contre, nous, notre objectif, c'est d'arriver à généraliser ce matériau-là et à le faire connaître un peu plus largement.
C'est solide, le bambou ?
Alors oui, c'est souvent la première question qu'on nous pose, effectivement, est-ce que le bambou est solide ? Oui, c'est une plante qui est vraiment très solide. Alors pour arriver à avoir des vélos solides, naturellement, on passe par tout un tas de sélection de matières premières, de type de séchage. Et aujourd'hui, nous, on garantit nos vélos 12 ans, ce qui justifie justement la solidité de nos cadres.
Votre ambition, c'est vraiment de remplacer le carbone par des matériaux végétaux ?
Oui, exactement. Nous, notre ambition, c'est d'arriver à démocratiser l'utilisation de la matière végétale dans les modes de transport doux. Alors, on n'a pas comme prétention de remplacer le carbone, l'aluminium, le titane, mais c'est plutôt d'apporter un nouveau matériau dans la mobilité douce qui a des propriétés mécaniques extrêmement intéressantes. Par exemple, le bambou a une capacité de filtration des vibrations qui va être 5 fois supérieure au carbone, tout en ayant une bonne rigidité qui va être quasiment équivalente au carbone. Donc, on peut proposer, à travers l'utilisation de la matière végétale, finalement, une nouvelle application au vélo, sur un vélo plus confortable et tout aussi rigide.
Vous parliez du lin tout à l'heure. Pour moi, le lin, c'est du tissu. À quoi peut-il bien servir dans un vélo?
Oui, absolument. Alors, si vous voulez, pour un peu s'imaginer, les tubes du vélo vont être en bambou, mais par contre, pour lier ces différents tubes entre eux, eh bien, naturellement, on a besoin d'un autre matériau. Et là, on va utiliser le lin couplé à une résine. Donc, c'est un tissu de lin qu'on va enduire de résine, un peu comme la fabrication d'un vélo en carbone, sauf que donc, le lin provient de Normandie, donc juste à côté de chez nous. La résine est fabriquée dans le sud de la France. Tout est transformé dans notre atelier à Entrelac. Et donc, en gros, on va produire ce qu'on appelle, nous, un biocomposite. Donc, c'est un peu comme fabriquer des pièces en carbone, sauf qu'elles vont toutes être faites en matière végétale avec une résine biosourcée.
Vous confirmez que nombre de vélos prétendument made in France sont fabriqués en Asie, en tout cas pour le cadre ?
Ouais, effectivement, aujourd'hui, quand on dit Made in France, finalement, on généralise un petit peu, c'est un peu vulgarisé, parce qu'aujourd'hui, les cadres sont majoritairement fabriqués en Asie, et quand on dit qu'un vélo est fabriqué en France, c'est finalement, il est assemblé en France. Nous, la différence, justement, c'est qu'on va avoir un vrai engagement sur le Made in France, parce qu'on va sourcer notre matière première en France, c'est-à-dire qu'elle va même être extraite, finalement, du territoire français. Ensuite, elle va être transformée dans notre atelier pour devenir un cadre de vélo, et c'est là où nous aussi, on va jouer ce rôle d'assembleur, on va assembler des équipements, donc une partie des équipement français, une partie d'équipement européen sur un cadre qui lui est exclusivement français.
Et qu'est-ce que ça donne côté prix, votre vélo cyclique ?
Alors aujourd'hui, on va se trouver sur un prix autour des 3 000 euros pour un vélo électrique. 3 000 euros, c'est finalement aujourd'hui le prix moyen d'un vélo électrique vendu chez un détaillant.
Vous avez été cycliste de haut niveau dans une vie précédente, Félix Hébert. Ouais. Comment est née l'envie de passer à la fabrication ?
Ouais, exactement. J'ai couru pendant presque 10 ans sur des vélos en carbone. Alors, les vélos en carbone, c'est des vélos qui sont extraordinaires pour la performance, mais qui sont finalement pas très confortables. Et donc, moi, quand j'étais coureur, je souffrais de douleurs dorsales, douleurs au cervical. Et donc, finalement, l'idée du vélo en bambou m'est venue suite à cette contrainte. Je me suis dit, mais j'ai envie de fabriquer un vélo qui soit confortable et qui me permette de faire du vélo plaisir, tout en étant un bon vélo, un vélo rigide, un vélo qui soit durable et qui me permette de descendre des cols à 80 km/h. Et à partir de ce moment-là, je vais chercher des matériaux qui pouvaient des alternatives au confort. Je suis tombé sur le titane, qui est un très bon matériau, et je suis aussi tombé sur le bambou, sur d'autres marques qui fabriquaient déjà des vélos en bambou. C'est là où je me suis dit, finalement, le bambou a un intérêt pour moi mécanique, à titre personnel. Une fois, après avoir fabriqué mon propre vélo, je me suis rendu compte que là, c'était très intéressant, et que finalement, il fallait essayer de le généraliser.
À quelle vitesse la descente des cols ? J'ai pas bien entendu.
Bon, on va dire 80 km/h maximum.
Même pas peur.
Au moins, toujours un petit peu aussi.
Cyclique, c'est à Entrelac, en Savoie. Merci beaucoup, Félix Hébert.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci, bonne journée.